Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar.
Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission spéciale d'appel sur l'actualité consacrée au Niger, 60 ans jour pour jour après l'indépendance, 3 août 1960, 3 août 2020. Quel bilan de ces décennies, quelles priorités? Nos invités sont là pour en parler avec vous. Moussa Tchangari, secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, et le journaliste et écrivain Seydi Kaba. Vous êtes là aussi, vous, via Facebook, via le Standard. Vous continuez de réagir, de nous appeler, de nous écrire. Yacouba Issa, à Loga, dans la région de Dosso, nous dresse une liste des domaines dans lesquels il y a encore pour lui des progrès à accomplir. Pauvreté et mauvaise gouvernance, le peuple souffre, écrit-il. Le Niger, on le rappelle, 189e sur 189, au classement de l'indice de développement humain du PNUD, qui mesure à la fois le produit intérieur brut par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation. Sido Adamou Kaila évoque, lui, l'insécurité parmi les chantiers auquel il faudra s'attaquer pour les décennies à venir. Bonjour Ali.
Bonjour Nathalie, joyeuse fête aux Nigériens et merci à RFI pour l'intérêt que vous accordez au Niger.
Excellente fête à vous aussi, vous nous appelez de Niamey et c'est sur cette question de la sécurité que vous vouliez intervenir vous aussi. Vous dites, on a beaucoup dépensé pour la sécurité dans ce pays, sans véritable progrès.
Oui, tout à fait. Je commencerai par dire qu'il faut, peut-être s'en féliciter du contexte de sécurité relative que nous avons au Niger, tenant compte du contexte environnemental global. Mais à voir de près, quand je regarde le budget, il est consacré 20% du budget national pour la sécurité. 60 ans après, cela veut dire quoi? Environ 1,2 milliard par jour. Budget, c'est approximatif parce que on a fait tellement de débats sur RFI sur la mauvaise gestion de ce budget-là alloué à l'armée. Et on regarde, quand on voit à côté de tout cela, beaucoup de priorités pour le Niger. On mange peu, on est mal soigné, on est mal éduqué, sous-éduqué. Donc ça veut dire que tout part, entre guillemets, dans la sécurité, ça peut se justifier. On regarde aussi les présences des bases militaires qui sont décriées du fait que, y compris la présence des bases militaires, il y a toujours des attaques. Donc ça veut dire que 60 ans après, nous ne sommes pas à mesure d'informer véritablement l'armée nigérienne, d'équiper véritablement l'armée nigérienne. Donc ces deux facteurs-là, sous-information, sous-équipement, là, ils vont droit à l'abattoir. On envoie droit à l'abattoir les militaires. Et ça, ce n'est pas pardonnable 60 ans après.
Et vous dites, Ali, que l'armée nigérienne est en état de délabrement. C'est le mot que vous avez employé tout à l'heure au Standard.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un état de délabrement parce que c'est maintenant qu'il faut reconstruire l'armée nigérienne. Mmh. 60 ans après, c'est maintenant qu'il faut reconstruire. Ça veut dire que durant tout ce temps-là, c'était un lambeau. C'était un délabrement total. Mmh. Donc c'est maintenant qu'il faut reconstruire.
Merci Ali d'avoir été en ligne avec nous. Seydi Kaba, c'est vrai qu'on a en tête, notamment au cours de ces derniers mois, cette attaque d'Inates qui a coûté la vie à 71 soldats nigériens, qui a été revendiquée par l'État islamique et qui a donné l'image, c'est vrai, d'une armée un peu démunie face au danger, au risque terroriste.
Oui, ce qu'il faut dire, c'est que les fonds qui ont été annoncés ne sont pas effectivement arrivés dans le domaine où ils devaient arriver. Les acquisitions ne se sont pas passées dans la transparence absolue. Les choix n'ont pas été les choix adéquats. Le Niger a acquis des Sukhoi, des avions de combat Sukhoi, dont on ne sait pas quel usage il peut en faire. Donc, il y a eu des problèmes dans l'utilisation des crédits affectés au secteur de la défense.
Et vous faites référence, Seydi Kaba, à cet audit de février dernier qui révélait des surfacturations, des livraisons de matériel jamais effectuées, près de 100 milliards de CFA de manque à gagner, selon cet audit.
Il y a eu cela, il y a eu des problèmes de formation. Mais ce qu'il faut dire par rapport à, depuis l'indépendance, depuis le 15 mai 1974, où les militaires ont fait une déclaration demandant le départ du contingent français qui était au Niger, au camp Leclerc, l'actuel camp Bagadi, il y avait un corps expéditionnaire français qui était là. Mais après le coup d'État le 15 avril 1974, le 15 mai, un mois plus tard, donc, l'armée nigérienne avait demandé la doctrine a toujours été de compter principalement sur les forces armées nationales, les équiper, les former, jusqu'à ce que, à partir de 2013-2014, le choix a été fait de faire venir de bases étrangères dont on n'a pas vu la valeur ajoutée. C'est ça qui crée aujourd'hui le rejet qu'il y a eu des bases militaires étrangères et qui fait que, sur le plan de la sécurité, on n'a pas vu ce que cela a apporté comme valeur ajoutée par rapport à la défense du territoire, par rapport à la sauvegarde, même si il faut reconnaître que le pays fait face à des difficultés de sécurité sur sa frontière sud-est avec le Nigeria, où il y a Boko Haram, sur la frontière nord-ouest avec le Mali, et sur la frontière nord avec la Libye. C'est vrai qu'il y a un défi sécuritaire, mais l'utilisation des crédits, l'organisation de la défense, comme d'ailleurs dans les autres secteurs de la vie du pays, a eu à faire face à des problèmes de gouvernance dont les conséquences sont visibles à Inates ou ailleurs dans le pays. Ce sont ces problèmes-là qui ont entraîné cette situation de on ne peut pas parler de délabrement, mais en tout cas d'insuffisance des moyens, il a été dit par les militaires eux-mêmes. Par exemple, quand on prend dans la guerre qui est imposée aujourd'hui au Niger, il faut une aviation légère. Le pays n'a pas une aviation légère suffisante, ou les avions qui sont là ne sont pas entretenus. Donc c'est l'ensemble de ces difficultés qui expliquent aujourd'hui les défis auxquels font face les populations. Quand on prend une région comme celle de Diffa, les populations vivent au jour le jour. C'est presque leur existence qui est menacée par la menace, et l'État n'est pas suffisamment présent pour assurer leur sécurité. Et cela a une conséquence, c'est que, par exemple, pour une région comme celle de Diffa dans le sud-est, les gens ont besoin de la sécurité pour faire de la production agricole, pour produire même des cultures, des rentes qu'ils peuvent vendre. Donc, ils se retrouvent aujourd'hui à la fois dans une situation de misère économique, de misère sociale, ajoutée à une insécurité grandissante pour laquelle il n'y a pas de réponse actuellement.
Moussa Tchangari, peut-être une réaction au propos de Seydi Kaba rapidement sur ce constat, la sécurité qui conditionne évidemment tout le reste et tout le développement et l'activité économique du Niger.
En tout cas, Seydi Kaba a assez bien décrit la situation. Et évidemment, le pays fait face à une situation sécuritaire inédite. Et l'armée et le fonds de défense et de sécurité n'arrivent pas encore à relever le défi de restaurer la sécurité dans certaines zones du pays. Évidemment, on a beaucoup parlé des équipements, etc. Bon, le problème de fond, c'est la corruption qui prend de l'ampleur et qui gangrène y compris les institutions militaires. Et ce n'est pas surprenant qu'on assiste à ça. Aujourd'hui, et je pense qu'on a vu la réponse à la crise sous un angle purement militaire. On n'a pas fait suffisamment de lien entre la dégradation de la situation sécuritaire et le recul sur le plan démocratique. Et on s'est lancé dans une sorte de course, soi-disant, à l'armement. On a vu ce que ça a donné. L'argent qui a été destiné à l'armement a été détourné. Et la situation sur le plan démocratique ne s'est pas améliorée. Et la situation sécuritaire s'aggrave. Donc on devrait tout de suite tirer la conclusion que si on veut sortir de cette situation difficile, il faudrait déjà améliorer la gouvernance d'abord. C'est vraiment un problème de gouvernance y compris de l'institution militaire, le respect des droits fondamentaux des citoyens. C'est à ça qu'il faut revenir pour pouvoir sortir de cette situation sécuritaire particulièrement difficile. Mais tant qu'on va continuer à avoir le problème sur l'angle d'équipement, etc., on va donc allouer des fonds importants qui vont être en grande partie détournés par quelques personnes, on ne s'en sortira pas.
Voilà. La gestion et la bonne gouvernance. Avant tout, je voudrais qu'on donne la parole à Gamar, qui est en ligne d'Agadez, pour évoquer un tout autre sujet. Bonjour Gamar.
Bonjour Nathalie, bonjour auditeurs de RFI et bonne fête de l'indépendance à tous les Nigériens.
Alors pour vous, le Niger a un atout, un principal atout, c'est pas son uranium, c'est pas son or, c'est pas son pétrole, c'est sa démographie, dites-nous.
Oui, notre pays vraiment a un très grand atout, notamment sa démographie, sa jeunesse. Et quand on regarde l'évolution de cette démographie de l'indépendance à nos jours, on voit que plus de 50% de notre population est jeune. Et donc cette jeunesse, si on s'occupe très bien d'elle en termes d'éducation, formation professionnelle et elle peut être un grand atout pour le développement de notre, notre économie.
Malgré les crises alimentaires qu'on évoquait, malgré la pauvreté, vous pensez que ça reste un atout pour le Niger? 3 millions d'habitants, on rappelle les chiffres, 3 millions d'habitants à l'indépendance, aujourd'hui c'est, c'est 7 fois plus et il y a des projections qui disent que ça peut être 10 fois plus d'ici 10 ans.
Oui, d'ici 10 ans, nous serons à 30 millions d'habitants, donc plus de 50% de notre population aura moins de 25 ans. Donc, si toutefois cette jeunesse, on s'occupe très bien d'elle en termes d'éducation, en termes de formation professionnelle, en termes des infrastructures qui vont développer dans notre pays, et à mon avis, ça pourrait être un très grand atout.
Mais eh bien merci d'avoir témoigné, Gamard. Un mot peut-être de Moussa Tchangari sur ce sujet qui est sensible. On se souvient du tollé qu'avait provoqué Emmanuel Macron en 2007 en marge du sommet du G20, lorsqu'il avait, sans le nommer, évoqué le Niger, quand des pays ont encore 7 à 8 enfants par femme, vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Moussa Tchangari, à quelles conditions cette vitalité démographique réelle peut profiter au Niger dans les décennies à venir?
Ben, il faut de bonnes politiques, déjà politique d'éducation d'abord, c'est vraiment l'élément essentiel. Il faut éduquer tous ces enfants qui naissent. Tant qu'on n'a pas fait toutes les réformes qu'il faut pour remettre le système éducatif sur les rails, évidemment que on ne pourra pas profiter du potentiel qu'il y a, que représente la jeunesse. Il faut aussi une politique d'emploi, il faut une bonne gestion du pays d'une manière générale. À cette condition-là, bien entendu, le dynamisme démographique sera un atout. Mais si, évidemment, si il n'y a pas de changement sur le plan politique, il n'y a pas de changement dans les politiques d'éducation, etc., même si chaque jour il a mouru, plus de personnes qui naissent, on ne pourra pas avancer. Donc on peut même si on revenait à 3 millions, on peut toujours avoir des problèmes avec la façon dont le pays est géré aujourd'hui. Donc le problème de fond reste toujours la question de comment le pays est géré, selon quelle orientation, quelles politiques sont mises en œuvre pour valoriser tout le potentiel qu'il y a, à commencer d'abord par les hommes et les femmes. Voilà, donc c'est vraiment l'élément de base.
Sédi Kaba, je vais vous demander un commentaire assez court. Atout ou pas la vitalité démographique du Niger en 2020?
C'est un énorme atout. Si le pays s'organise, il peut en tirer de très très grands dividendes, à condition d'avoir une réelle politique de la jeunesse, des politiques d'accès au crédit, aux jeunes qui veulent créer des choses, qui veulent avoir des initiatives, des politiques d'accompagnement pour la mise en valeur des cuvettes du manga, des oasis de l'Aïr, du fleuve Niger, de la Magia, etc. Il y a beaucoup de potentialités. Si le pays s'organise, moi je pense que c'est un véritable atout. C'est même un levier du développement du Niger, cette jeunesse.
Voilà, alors 60 ans, c'est un âge respectable et c'est un âge suffisant pour dresser un premier bilan du point de vue de la démocratie. On l'a fait en partie, mais on a parlé dans la première partie de cette émission des espoirs qu'avait suscité l'instauration du multipartisme. On est en ligne à présent avec Issa Adifa. Issa, bonjour.
Oui, bonjour Nathalie.
Quel est votre constat 60 ans après sur l'état de la démocratie au Niger?
Ce qu'on peut constater depuis l'indépendance de 1960 aujourd'hui, nous avons les mêmes partis politiques et qui sont dirigés par les mêmes personnes. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus souvent. Parce qu'on ne peut pas comprendre 60 ans après que quelqu'un continue à diriger un parti politique comme si tous les gens avec qui il forme, ils ne connaissent pas, ils ne savent rien du tout de la politique, ils ne savent pas comment gérer un parti politique. Je pense qu'il doit y avoir de l'alternance dans les partis politiques.
Vous voulez un renouvellement en fait de la classe politique du Niger, c'est ça?
Oui, normalement, parce que depuis l'indépendance, ceux qui ont dirigé là, ils ont fait, on a vu et on a constaté que ce n'est pas du tout satisfaisant. Ce qu'ils font ne nous satisfait pas et ça ne donne pas de bons résultats. Donc il faut donner l'opportunité à cette jeunesse-là qui est là, qui est pleine d'idées, qui ont quand même une certaine vision de la politique et qui peuvent mieux faire que les vieux qui occupaient les partis politiques depuis l'indépendance aujourd'hui.
Alors Issa, vous restez en ligne de DIFA. Mamadou, lui, est à Niamey. Bonjour Mamadou.
Oui, bonjour Nathalie, et bonjour tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Vous, vous faites exactement le constat inverse de celui d'Issa. Vous êtes satisfait, vous dites au contraire que depuis 1960, tous ceux qui se sont succédés au pouvoir ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour ce pays.
Effectivement, depuis l'avènement de la démocratie en 1990 avec la Première République, qui a eu des complications, il a fallu d'ailleurs l'intervention des militaires à chaque fois que des manquements, il a eu des manquements à la démocratie. Aujourd'hui, le Niger est un modèle de démocratie. Pour la simple raison, un président démocratiquement, il y passe le pouvoir à un autre président à la fin de son mandat. C'est d'ailleurs une chose rare en Afrique. Et au Niger, c'est pour une toute première fois que nous assistons à cela.
Donc vous évoquez la décision du président Mamadou Issoufou de ne pas briguer de troisième mandat. C'est ce que vous saluez, c'est ce que vous saluez aujourd'hui.
Oui, nous saluons vraiment, c'est pour une première fois au Niger. Parce qu'il n'y a pas un président qui a fait cela. Et nous saluons d'ailleurs son excellence Issoufou Mamadou pour le courage et pour ce qu'il fait pour ce pays. Il l'a d'ailleurs confirmé hier et nous espérons très bientôt que nous aurons des élections libres et transparentes pour la bonne continuité de l'État.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir témoigné. Effectivement, c'est la première chose qu'a évoqué hier soir Mamadou Issoufou dans son discours à la veille de la fête de l'indépendance. L'an prochain, à la même date, à la même heure, a-t-il dit, le président que vous aurez élu vous présentera ses vœux pour le 61e anniversaire de l'indépendance, rappelant donc qu'il ne serait plus là, qu'il ne serait pas candidat à un troisième mandat. Sédhi Kaba, c'est de bon augure cette décision pour la prochaine présidentielle ?
Oui, je pense qu'on peut faire crédit au président Issoufou d'avoir fait ce choix. Mais comme vous savez, ça doit être la règle. Ce n'est pas l'exception partout en Afrique. Au bout de deux mandats, les gens doivent quitter. Mais ce choix-là ne garantit pas une élection apaisée quand on voit, par exemple, les revendications de l'opposition sur les conditions qu'il faut créer pour aller à un scrutin consensuel. Je crois qu'il faut capitaliser le fait que le président Issoufou ne soit pas candidat pour créer les conditions d'une élection transparente et à ce stade-là, tout semble indiquer qu'il y a des malentendus sur la commission électorale, sur le code électoral lui-même. Et donc, si on va dans ces conditions-là, on risque de devoir d'avoir à gérer une crise post-électorale. Même si le président Issoufou n'est pas là, ce n'est pas la garantie que le pays peut faire face à une crise post-électorale compte tenu de la situation sécuritaire et de la situation économique dans laquelle il se trouve aujourd'hui.
Oui, parce que donc les tensions que vous évoquiez sur la CENI, sur la Cour constitutionnelle, sur certaines parties du code électoral sont bien là malgré cette décision de retrait. Moussa Tchangari, comment voyez-vous arriver cette échéance présidentielle, décembre pour le premier tour et janvier pour le second s'il y en a un?
Oui, bon, il reste encore quelques mois. Bon, on peut dire qu'on est vraiment à un pas de tout ça, mais c'est pas encore arrivé. On souhaite que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions, mais comme les autres l'ont dit, aujourd'hui, il y a une situation qui indique que, bah, en fait, c'est pas vers des élections réellement transparentes et inclusives qu'on va, mais on va vers quelque chose voilà, qu'on appellera élection. Et puis, donc, c'est sûr qu'il y aura des problèmes. Les problèmes sont déjà là. Donc, évidemment,
Et on perçoit effectivement votre inquiétude, ou en tout cas vos doutes sur la prochaine tenue donc de cette présidentielle. On n'a pas le temps de prendre en ligne Ahmed qui voulait, lui, nous parler à Niamey du rituel qui est attaché à cette date du 3 août, celui qui consiste à planter un arbre. Il nous disait, Ahmed, le Niger n'est pas indépendant, mais pour la plantation des arbres, nous le sommes. C'est la seule chose que nous faisons réellement de façon indépendante, sans l'intervention d'un autre pays. Et c'est effectivement le rituel de ce 3 août, hein, d'aller planter des arbres pour faire reculer le désert. Merci en tout cas à nos invités d'avoir participé à cette émission. Sédhi Kaba, journaliste, écrivain, auteur de Voyage au cœur de Boko Haram, enquête sur le djihad en Afrique subsaharienne, c'est paru en octobre dernier chez l'Harmattan. Merci à Moussa Tchangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, qui était en ligne de Niamey. Ce mois d'août des indépendances va se poursuivre mercredi avec le 60e anniversaire.